jambon, yaourt, saucisse, courgette, chewing-gum, choucroute.
François Kern est l'architecte du futur centre commercial Les Terrasses du Port qui prendra place à La Joliette en face des docks. Un équipement qui prend place également dans la cité de la Méditerranée, une opération d'aménagement urbain qui s'étend sur le port entre le Fort Saint-Jean et Arinque et qui s'inscrit dans le cadre d'Euroméditerranée. François Kern travaille également avec l'architecte Yves Lyon et une équipe pluridisciplinaire à la transformation globale de ce site portuaire hautement symbolique. Pour cette semaine commerciale sur les 3-8, nous lui avons proposé de nous rappeler en quoi consistait son travail avec Yves Lyon, mais surtout de nous parler des terrasses du port. François Kern.
J'avais monté une équipe avec des architectes, des paysagistes, bureaux d'études, programmistes, une équipe pluridisciplinaire avec des spécialités transversales. Et puis on a commencé à mettre en place de grandes idées sur le devenir et la reconversion, on va dire, ou la réutilisation de friches et de terrains portuaires, pas en friche du tout, puisqu'il est très actif à cet endroit-là, et y compris dans la profondeur de la ville, donc une reconversion de toute la frange urbaine et portuaire, allant du Fort Saint-Jean jusqu'au silo d'Arin, qui est un peu plus loin, donc en gros au débouché du ruisseau des Égalades. Et puis, de fil en aiguille, on a développé donc le thème d'un projet qui traite des transversalités entre la ville et le port, et qui traite donc des espaces qui traite en fait le projet sur deux thèmes, celui du liant et celui des projets. Le liant, ce sont les espaces publics, où là on a développé toute une série de places et de placettes et de squares et d'intérieurs d'îlots qui sont tous reliés en fait par une comme des perles autour d'un collier qui sont tous reliés et mis en relation par le boulevard du littoral sur 2,5 km donc du Fort Saint-Jean jusque au ruisseau des Égalades. Donc notre collaboration s'est organisée donc autour donc d'une mission de coordination des architectures et également des espaces publics, donc un travail sur les espaces publics. Donc là on a une mission effectivement très pratique, très concrète de maîtrise d'œuvre sur le boulevard du littoral, qu'on doit entièrement redessiner, où on doit intégrer effectivement l'enterrement du fameux axe autoroutier littoral qui a été voté ces jours-ci. Et puis, donc, je parlais de coordination des architectures, où le projet du MUCEM, le projet donc sur le Fort Saint-Jean, le projet de requalification de la place autour de la Major, le parc habité d'Arinque, avec les différents projets qui sont en train de naître, avec notamment la tour CMA-CGM, sont des éléments sur lesquels, avec Yves Lyon, on est en train de travailler sur leur relation et leur mise en scène par rapport justement à ce grand boulevard, à ce grand lien qui va définir, une fois que la passerelle sera tombée, cette nouvelle façade urbaine et portuaire.
Donc en quoi la construction d'un centre commercial en face des docks à La Joliette est pertinent dans ce schéma ?
Alors, ce qui est intéressant d'imaginer, c'est que là se développe, à partir de la place de la Joliette et en allant vers le nord, un peu sur la trame Mirès, un peu la troisième ville qui n'avait jamais vraiment vu le jour, qui avait été imaginée avec le percement de l'avenue de la République. La première étant la ville originelle blottie sur la colline des Acoules, le panier. La deuxième qui s'est étendue autour du vieux port. Et la troisième, donc celle du 19e, tout début 20e, mais qui n'a pas vu ses, bon, qui n'a pas vu ses développements aboutis. En tout cas, c'est resté une trame industrielle qu'on a connue jusqu'à présent et qui, donc, tout le monde avait envie qu'elle se régénère, quoi. Il va y avoir donc un afflux important de populations, de nouveaux habitants, et donc il faut prévoir les équipements nécessaires. Donc il y a des équipements qui sont de type public, éducation, sport, etc., et d'autres qui sont de type commerciaux et ludiques. Et il nous a semblé, et d'ailleurs il y a plusieurs études commerciales le montrent, que les terrasses du port ouvertes sur l'espace maritime, mais aussi bien imbriquées à ce nouveau quartier de ville, organisées au bout de la rue de la République, qui elle-même crée une tension avec le deuxième centre important, ou premier centre important, puisque historiquement, qui est le centre bourse, ça nous paraissait être quelque chose de très intéressant pour mettre en tension la deuxième ville avec la première et les mettre surtout en relation, quoi, si vous voulez.
Alors c'est Forum Invest qui va être le propriétaire et le gestionnaire peut-être aussi de ce centre commercial. Qui est Forum Invest ?
Forum Invest est un investisseur, promoteur et animateur, gestionnaire de centres commerciaux, de centre-ville. Donc je laisserai le soin à Forum Invest de faire sa publicité, ils le font très bien. Je suis architecte et vendeur du projet. Donc pour moi, je m'intéresse plutôt au concept urbain et plutôt spatiaux. Mais ils sont en tout cas spécialisés dans l'idée que le shopping au travers de... Enfin, le centre commercial plutôt, et au travers du shopping est capable de régénérer et de donner... d'avoir un caractère assez animateur pour faire évoluer dans le bon sens un morceau de ville et régénérer autour de lui un morceau de ville.
Le shopping génère de la ville, donc j'ai entendu dire que le shopping transformait les flâneurs en consommateurs aussi.
On peut lécher les vitrines sans y laisser sa langue non plus, mais... c'est vrai que je crois que la lecture de la ville actuelle, elle peut se faire par ce biais-là. Je ne dis pas que je ne suis absolument pas un défenseur de l'unique position dans ce sens-là. Je crois qu'il faut laisser le choix, mais il y a quelques espaces qui peuvent être, parce que la dimension des terrasses du port peut le permettre, c'est à peu près l'équivalent de 4 îlots d'habitation, avec un grand passage central, puis des ruelles adjacentes. C'est presque un morceau de quartier de ville qui est en surplomb des ports. Ça peut être un élément intéressant de ce point de vue-là.
Marseille est quand même déjà assez bien fourni en centres commerciaux. Il y en a quelques-uns. Quel est votre regard, vous, sur les... Vous parliez du centre-bourg tout à l'heure, sur les centres commerciaux qui existent déjà ici?
Ben, Marseille, sans en citer, mais ceux qui sont dans le centre-ville en tout cas, je les trouve vraiment inadaptés et très désuets. Alors je ne sais pas si l'investissement, je pense que les investissements des promoteurs pour les mettre à jour sont colossaux, mais pour les remettre, si vous voulez, en route chaque fois sont colossaux, mais c'est quelque chose, c'est un objet qui s'use terriblement, qui est très utilisé, donc qui est usagé, quoi, très rapidement. Donc ça nécessite une attention et donc un investissement en termes financiers énorme, non seulement pour le maintenir en forme, mais également pour l'adapter, pour le faire correspondre chaque fois au goût des gens pour arriver à lui garder son attractivité, quoi.
87% des Français y vont au moins une fois par semaine dans un centre commercial. Vous, quand vous allez dans un centre commercial, quelles sont vos impressions en tant qu'usager? Je sais pas si on peut dire usager pour les centres commerciaux, mais en tout cas en tant que chaland.
Moi, j'y vais personnellement pour mes courses avec mon caddie. Ce qui ne sera pas le cas des terrasses du port. Bon, moi, alors, si on prend mon cas personnel, moi, j'y vais pour acheter des œufs, du fromage et des pâtes. Et j'essaye de me débrouiller pour que la rentabilité de mon acte soit la meilleure. C'est-à-dire que je sais où sont les rayons, je vais tout le temps dans le même sens et j'optimise mon action parce que j'y reste pas des années. Mais enfin, sur les terrasses du port, en tout cas, la programmation qui est prévue, a priori, c'est pas un commerce à chariot, quoi, si vous voulez. Hein. Ce sont des boutiques, ce sont des galeries avec des boutiques, soit de prêt-à-porter ou d'équipement de la maison, et puis des restaurants sur la grande terrasse, sur le belvédère.
Ça veut dire que c'est pas pour tout le monde, ça? Non? C'est pour un certain type d'achat, donc une certaine catégorie de population. On ne pourra pas aller acheter son matelas, par exemple, aux terrasses du port.
Je sais pas.
Les produits de première nécessité, tout ça.
Si, il y a quand même des boutiques qui sont prévues pour ça, oui. Mais je sais, là-dessus, je pense qu'une interview du commercial qui a en. Enfin, d'ingénieur commercial qui a ce projet en charge sur le plan du merchandising, pour parler français, serait plus approprié. Hein. Bon, moi, je vous parle d'architecture, de choses. Voilà.
Donc, on parlait de ce projet comme facilitant les liens entre la ville et le port. Pourtant, les centres commerciaux, jusqu'à aujourd'hui, sont plutôt des endroits fermés qui cherchent souvent à isoler les chalands de l'extérieur. Donc, on imagine que c'est une petite problématique architecturale. Comment vous travaillez sur cette idée d'ouverture donc, de centres commerciaux?
Alors l'idée, c'est que les terrasses en fait du port ont cette spécificité que ils offrent un grand volume, le centre commercial et ses annexes et ses extensions et ses surfaces sur l'extérieur, donc la grande promenade en surplomb des bassins portuaires sont conçus pour être pour fonctionner en surplomb donc des espaces portuaires. Espaces portuaires sur lesquels vont s'organiser tout le tri et l'attente, le tri des véhicules et l'attente des passagers pour l'embarquement des ferries. Et donc là, il y a une imbrication entre l'objet, on va dire, centre commercial et l'objet gare maritime qui va faire qu'ils vont fonctionner en synergie. Comment faire pour que l'espace public ouvert reste ouvert sur le centre commercial et vice-versa. Donc là, justement, la discussion qui a permis d'aboutir au projet qui est présenté, c'est de dire que la grande terrasse qui se trouve en surplomb des ports est organisée pour être toujours accessible par le grand passage, c'est-à-dire la grande galerie qui la connecte au boulevard du littoral, qui lui est un espace complètement public et ouvert, que cette grande galerie, que cet accès reste toujours ouvert. Et que même si le centre commercial est fermé dans la nuit, parce que ça ferme, c'est là où on a bien le gradient entre espace public et espace privé, c'est là que dans la nuit, il y aura des fermetures latérales, des ruelles latérales, mais le grand passage ainsi que la terrasse resteront toujours a priori ouverts.
En surface et en niveau, ça va représenter quoi ces grandes terrasses?
En surface, c'est un linéaire en fait, en mètre linéaire plutôt, de 300 mètres de longueur. Cette grande terrasse sera composée d'une cinquantaine de mètres de profondeur, donc vous en déduisez la surface, mais c'est 2-3 hectares. Cette promenade en fait sera agrémentée tout au long de locaux destinés à pouvoir recevoir des restaurants, de la restauration, et puis il y aura tout à fait en bout. Donc on peut la considérer un peu comme une corniche si vous voulez, avec vue sur les bassins, les bateaux, les ferries et les bateaux de croisière s'arrêtant devant, Et puis, tout au bout de cette promenade, de cette passeggiata, on l'avait appelée comme ça, quoi, lors de notre première esquisse de concours, tout au bout de cette promenade, on va retrouver un stade de beach soccer, un stade de sport de sable permanent, avec des couvertures, avec des gradins couverts, et puis aussi un centre de remise en forme, enfin des choses qui vont pouvoir fonctionner en synergie avec des activités qui vont pouvoir être développées sur cette promenade et sur cette terrasse en Belvédère sur les ports.
C'est-à-dire ça va être un centre commercial qui va être pas très loin d'une idée de centre de loisirs aussi.
Mais la juste dénomination, c'est un centre commercialo-ludique ou ludo-commercial qui organisé donc autour d'éléments qui s'articulent comme le boulevard du littoral, qui va être le parvis des terrasses du port, le grand passage et la grande terrasse, donc un centre commercial articulé autour d'espaces collectifs. Qui me semble le terme le plus approprié pour ne pas dire ni public ni privé, mais d'espace collectif, et donc dans lesquels on pourra organiser toutes sortes de, et dans lesquels d'ailleurs le promoteur et le gestionnaire du centre Forum Invest entend bien organiser toutes sortes de d'animations qui pourront créer là faire de ce lieu quelque chose dont on peut se souvenir avec une attractivité fortement développée. Et donc ce sont les attentes en tout cas de la ville de Marseille là-dessus et des Marseillais d'une façon générale, quoi, d'avoir une activité dans les espaces ouverts de la ville, quoi.
Deux mots sur les ambiances que vous allez essayer de construire dans ce centre commercial à travers l'architecture et les revêtements de cette architecture. On parle souvent à propos des centres commerciaux d'idées de cocon, d'utérus comme ça, où les gens flottent un peu, glissent un peu sur un sol qui les fait patiner, flottent un peu dans un brouillard de son, de lumière, de reflets, choses comme ça. Est-ce que vous travaillez aussi dans ce sens-là?
Alors, c'est certes, la tendance générale, c'est effectivement la tendance, je veux dire, mondiale, c'est ça, quoi. C'est déconnecter, en fait, l'usager, le chaland, enfin, en tout cas le client potentiel, de sa perception, de sa perceptivité, etc., pour mieux le capter. Sur les terrasses du port, on a une chance, et ça, c'est une chance sur laquelle je m'appuie, c'est le fait que le site soit fortement ouvert sur la baie de Marseille. Donc, c'est une chance qu'on a utilisée au maximum, que j'ai utilisée au maximum dans le projet, c'est-à-dire ouvrir de grandes baies et donc ouvrir les allées principales, le grand passage plus les allées latérales des terrasses du port sur la baie de Marseille, et également donc faire rentrer la lumière du soleil, et également partout ailleurs sur le grand passage ainsi que sur les allées latérales, on a laissé par les verrières, évidemment en les contrôlant pour des principes de précaution par rapport aux surchauffes thermiques, on a laissé rentrer la lumière du soleil. Et ça, c'était un des principes fondamentaux que moi je souhaitais voir maintenir jusqu'au bout dans le projet, et sur lequel on a lutté fortement. C'est-à-dire que les gens qui utilisent, en fait, qui viennent se promener à cet endroit-là et aussi également acheter des choses dans les commerces s'y trouvant, c'est surtout qu'ils ne soient pas déconnectés du site marseillais, donc qu'ils aient la lumière et puis la vue sur la baie, les deux choses fondamentales. De l'autre côté, là je vous parle d'une vue du promeneur dos à la ville, mais de l'autre côté, évidemment, on a toujours en rappel la façade des docks qu'on percevra depuis le grand passage, omniprésente avec sa masse très importante de 40 mètres de haut, etc.
Vous avez un site internet sur lequel il y a une vidéo en image de synthèse que tout le monde peut consulter, qui donne des choses en image de synthèse, mais qui semble assez précise sur ce centre commercial. J'ai cru apercevoir à un certain endroit des chaises pour s'asseoir dans un an. Est-ce qu'on pourra s'asseoir dans ce centre commercial sans consommer ou pas?
Ça aussi, c'est une des choses importantes aussi, oui. Il y a le travail de l'architecte, il y a le travail après du commerçant aussi, qui est le client. Et il faut arriver à trouver des terrains qui sont sur lesquels on puisse produire des éléments de projet, mais aussi également de la vie pour le projet qui va devenir réalisation, pour le produit du projet, quoi, si vous voulez. Et donc, en fait, ce qu'on a réussi à obtenir de haute lutte, et c'était pas gagné au départ, c'est tout au long de la grande terrasse et en surplomb, juste au bord donc du surplomb, pouvant regarder les navires, une sorte de banquette maçonnée de 300 et quelques mètres de long, 380 mètres de long, sur le principe de celle qui est développée sur la corniche Kennedy, que tous les Marseillais connaissent bien et qu'ils apprécient bien, donc de façon à pouvoir contempler la mer sans, sans avoir une place payante, quoi, si vous... Mais sinon, pour ceux qui le souhaitent, il y a aussi des terrasses de café avec des chaises et des tables.
Donc ce que j'ai vu et qui était plutôt à l'intérieur, ça devait être une terrasse de café à l'intérieur. Je parlais de chaises, c'était des chaises confortables, des fauteuils, mais ça doit être plutôt ça. Quelles sont les matières que vous allez utiliser pour ce centre?
Alors, pour en fait, l'enveloppe générale est une grande nappe plissée en cuivre patinée. La terrasse, elle est revêtue d'une imbrication de minéral, donc de pierre et de bois, donc comme une promenade, comme des planches, comme un deck, ce sont des matières avant tout qui parlent d'une évocation de des matériaux portuaires, quoi. Et puis on retrouve côté boulevard une grande façade, elle communicante, donc qui est comme la coupe sur cet ensemble plissé, sur cette coque de cuivre, où on va retrouver là une transparence sur les commerces. Et puis des spots de messages possibles, et puis une mise en lumière aussi nocturne qui permettra de complètement révéler cet endroit du boulevard du littoral face au dock. Ouais. À l'intérieur, on est à peine aux prémices, hein, ouais, de l'aménagement, mais on va retrouver surtout les thèmes j'allais dire des vraies matières, des vrais matériaux. De la pierre sombre au sol, de la pierre plus claire sur les murs et sur les structures, et puis pas mal de métal traité un peu de façon patinée, quoi, si vous voulez, et puis évidemment toutes les structures, beaucoup de bois en faux plafond et en parement, en habillage, et puis évidemment les structures de verrières en verre et en métal.
Des centres commerciaux sur des sites portuaires, on pense à ceux de Barcelone et de Gênes. Est-ce que ce centre commercial s'inspire des centres commerciaux qui ont été construits? Bon, celui de Barcelone s'appelle Marino Strum, il y a pas mal de bois aussi, des choses comme ça.
Ben évidemment, on a regardé un peu tous les exemples et tous les... On a essayé de regarder aussi les bons exemples. Et surtout, on a essayé de regarder et d'analyser les bons exemples pour leur réussite en termes d'attractivité et d'animation. La grosse différence avec Marino Strum dont vous parlez, c'est que Marino Strum a carrément capturé, on va dire, définitivement, un môle portuaire. Un sol portuaire, et là même si c'est une réussite d'un point de vue de l'attractivité puis de la fréquentation, puisqu'il y a beaucoup de clients, beaucoup d'activités, etc., ça vit pas mal. À jamais, les développements portuaires et l'activité portuaire est renvoyée. On a un peu de plaisance de l'autre côté, du côté de Barceloneta, mais bon, voilà la grosse différence avec les terrasses du port, où on a chaque fois cherché, et le port nous y a fortement aidé pour ça, puisque c'était un des premiers critères de jugement du projet au concours, c'est de voir que on pouvait fonctionner, on pouvait garder le principe de fonctionnement portuaire des voitures montant sur les ferries de la gare maritime, on pouvait le garder tout en faisant fonctionner un centre commercial assez important, quoi, si vous voulez, de centre-ville.
Est-ce que vous en avez déjà construit des centres commerciaux ?
Non.
Pour terminer, quels sont les autres projets sur lesquels vous travaillez actuellement à Marseille ?
Mais on travaille sur des logements, sur des programmes de bureaux et de logements combinés. On travaille sur un centre commercial. On travaille sur celui-là et puis un autre aussi.
Un autre ?
Oui. Ah bon. Oui. Et puis c'est à Marseille, mais je peux pas en dire plus. C'est pas encore complètement d'ailleurs défini. Et puis on travaille aussi on a participé à l'équipe de concours du tramway, des espaces publics du tramway. Qu'est-ce qu'on a fait encore et qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Beaucoup de projets d'urbanisme sur des quartiers. Et puis on travaille surtout aussi beaucoup à l'extérieur. Donc on attaque notre 8e année de construction d'un quartier sur Montpellier, d'un éco-quartier, on va dire, donc de 38 hectares, une sorte de parc habité avec 2500 logements, où on réalise aussi des architectures à cet endroit-là. Et puis on réalise beaucoup de... comment dire, d'équipements publics, des logements sur Avignon aussi, d'équipements publics sur lesquels on est en concours. Le port de Calais, par exemple, on travaille beaucoup sur les ports hein, aussi, les questions urbano-portuaires. Donc on vient de terminer une grosse étude, là, effectivement, sur le port de Calais, où la question de la réutilisation de terrains portuaires moins utilisés plus du tout adaptés fait que on a cherché à reconstruire et à imaginer un quartier d'extension pour la ville, pendant que le port, lui, de son côté, développement des infrastructures pour de nouveaux bateaux plus grands. Vous savez que le port de Calais, c'est le deuxième port mondial de passagers. En nombre de passagers dans le monde, en fait, a besoin de développer de grandes infrastructures et donc a besoin de s'étendre du côté de la mer. Donc on a là étudié, on est en train encore, on est en train de finir l'étude, d'étudier les équilibres entre extension du port et aménagement d'anciens quartiers portuaires de la ville au profit de la ville.
Je ne savais que faire, j'étais désespérée. Mais en regardant l'heure, je me suis aperçue qu'il était ouvert, rien n'était perdu. Je vais au supermarché, je vais au supermarché, glisser sur le carrelage et me défouler. Entre les rayons de lessive et la crème à raser, je regarde que faire quand ça ne va pas bien. Je se mettre au lit et appeler le médecin. Rester enfermé pendant toute la journée, à prendre des médicaments et des bains de pieds.
c'était François Kern, architecte. Les terrasses du port devraient voir le jour en 2009 à La Joliette, en face des docks. Donc. André Merian, lui, est photographe. Au mois de mai 2006, il sortait avec les éditions Images en Manœuvre le livre Statement, constitué de 51 photos réalisées dans les extérieurs de différents centres commerciaux à travers le monde, centres commerciaux périphériques, et notamment à Plan de Campagne et Grand Littoral. Nous lui avons proposé, toujours dans le cadre de cette semaine commerciale sur la grenouille, de feuilleter ce livre avec lui, où l'on s'aperçoit que si à l'intérieur des centres commerciaux ça flotte, à l'extérieur c'est plutôt dur. André Merian.
Un samedi matin, c'est rigolo, j'étais avec un ami architecte qui vit à Marseille, qui m'a dit: viens avec moi à Plan de Campagne, il faut que j'aille acheter des plantes vertes pour mon cabinet. Donc je suis allé avec lui, c'est la première fois que je découvrais vraiment cette zone commerciale. Et on a traversé tout en voiture, il me disait: regarde, imagine si tout était monochrome, si tous les bâtiments étaient de la même couleur, ça pourrait être intéressant. Puis c'est de là qu'est venue mon approche photographique sur ces zones.
C'est un travail qui a duré combien de temps?
Ouais, j'ai commencé ça en 2002 à peu près. 2002, ça a été. J'ai fini en 2003-2004 et je suis allé faire une série supplémentaire au mois de janvier 2006 à Berlin. Parce que je trouvais qu'il me manquait une ville un peu. Pas anglo-saxonne, puisque. Enfin, plus du nord, quoi, je veux dire.
Donc, un travail sur 4-5 ans, et quand on le feuillette, impossible de savoir où on est, bon, à moins d'avoir fréquenté avec un regard très aiguisé les lieux. On peut passer de Grand Littoral à un truc des États-Unis, un truc d'Italie, un truc d'Allemagne, etc. On ne sait pas trop aussi à quelle époque ça a été pris. Quelle est l'idée là-dedans? C'est que le temps et l'espace deviennent chaotiques
Oui, il y a ça. Puis que tous ces espaces, qu'ils soient aux États-Unis, en Allemagne, en France, au Portugal ou en Italie, tout se ressemble. On est un peu sur un...
C'est l'uniformisation.
Ouais, l'uniformisation. Ouais. Mmh. Et puis aussi, de temps en temps, la place de l'humain dans ces espaces.
La couverture est noire de ce livre.
Je voulais pas d'image dessus. Je voulais pas d'image, donc il fallait qu'il se voit, comme les éditeurs et les distributeurs disent, dans les bacs à livres. Et donc j'ai opté pour cette couverture noire. Par contre, au début, j'étais pas trop pour la couleur de la typo Statement. Puis je me suis habitué, ça. Mais bon, je ne vais pas te raconter, un livre, ça reste pas longtemps en librairie. Hein.
Moi, le noir, je l'ai pris en fait parce que j'ai une pratique perverse. Quand je lis des livres, je vais souvent voir la page du fond. Commencer par la fin, comme beaucoup font d'ailleurs. Et on tombe sur un cercle de tombes face à un entrepôt. Il y a la question, une question qui a toujours traversé la photographie, hein, la mort, l'absence, la disparition.
Sienne. C'est une image que j'ai faite chez moi en Bretagne. Et donc, c'est la dernière du livre. Je savais pas qu'on trouvait des marchands de matériaux funéraires comme ça dans les zones commerciales extérieures. J'étais un peu dérouté aussi. Et je trouve qu'en fin de livre, bon, bah, c'est vrai que ça paraît un peu dur, mais c'est à chaque spectateur aussi de comprendre certaines choses et de réagir.
Ce sont des pierres tombales qui sont installées en rond, ouais, voilà, ouais. Dans une sorte de pelouse verte face à un mur d'entrepôt en tôle ondulée. Donc ça parle de la mort, mais ça parle d'une fausse mort aussi, parce que c'est faux.
Ben oui, c'est une mort aussi, c'est mercantile aussi. On est dans les zones commerciales.
Donc c'est une fausse mort, mais quand on feuillette le livre, on se rend compte qu'il y a très peu de figures humaines dans toutes ces images. C'est la disparition de la figure humaine aussi dans ces espaces. Et il y a d'ailleurs une photo qui me semble assez parlante de ça, que tu as faite à Grand Littoral,
ouais, exact.
Je crois,
ouais.
Où on aperçoit le reflet d'une personne humaine, mais qui est dans des cadres. Bon, le cadre, alors il faut dire que toutes les photos sont carrées, et là, dans cette photo-là, les cadres sont redoublés, deviennent de plus en plus petits, et il y a un reflet humain qui est pris dans un de ces cadres plus petits.
C'est une belle analyse, hein. Ouais, c'était un couple une soixantaine d'années, si je me souviens bien. C'était un samedi, je crois, et donc ils venaient certainement faire leurs courses dans cette zone commerciale. Et je suppose que le summum, c'était de dîner au centre commercial. Et j'ai l'impression qu'ils étaient vraiment heureux.
Pourquoi tu utilises le format carré?
Parce que ça me permet... Faut revenir sur toute l'histoire de ce travail. Ça me permettait de plus cerner ces paysages et ces humains, quoi. Parce que j'avais l'impression que je fonctionnais comme un sniper, puisqu'on ne peut pas toujours facilement faire des images dans ces zones commerciales. Il y a toujours des vigiles, la police et je ne sais trop quoi, et donc on est tout le temps traqué. Et donc j'avais un viseur carré. Et par moment, l'appareil, j'étais obligé de le mettre quand même sur pied ou trépied ou monopode. Et j'avais l'impression d'avoir une arme entre les mains, puisque je sentais une espèce de stress des gens qui me surveillaient. Et donc, avec ce format carré, je cernais mieux, enfin, je ne veux pas dire la cible, parce que c'est un peu exagéré, mais le cadrage, quoi.
Cette histoire de cadre dans laquelle la figure humaine devient de plus en plus petite et de plus en plus absente, on la retrouve à plusieurs endroits. Néanmoins, il y a quelques portraits qui sont faits. Là on est devant un lotissement avec un jeune homme en chemise blanche avec un chien. Ils ont l'air tous les deux très sympathiques. Pareil, on en a une là qui est, je ne sais pas où c'est. Qui est...
Portugal, à Coimbra.
À Coimbra. Là, bon, c'est un vigile qui pose dans une posture de vigile face à une façade d'entrepôt qui est loin, sur une aire de parking. Alors, vas-y.
Ouais, donc ça, j'avais fait cette image dans le cadre d'une commande du Centre des Arts Visuels de Coimbra au Portugal. Et donc, j'étais allé dans cette zone commerciale, j'avais dû demander des autorisations. Et comme c'était un périmètre assez restreint, j'avais eu affaire au directeur, à son adjoint, je ne sais trop qui, et ils m'ont dit oui, mais on vous suit. Et donc, comme ils m'ont toujours suivi, j'arrivais rien à faire. Et donc, le personnage qu'on voit sur l'image, c'est le gardien, c'est un vigile. Et je lui dis, écoute, vous vous mettez comme ça. J'ai monté le portrait, pour moi, c'est monter l'image, quoi. J'ai mis en scène. Et je lui dis, vous vous mettez comme ça, vous me regardez en parlant à moitié anglais, à moitié français. Et voilà. C'est vrai que c'est des zones où il y a une présence humaine, mais une présence aussi sécuritaire. Donc il fallait bien que je la photographie un peu, quoi.
Donc les humains dans The Statement d'André Merian, soit ils disparaissent, soit ils sont menaçants.
Ouais, si on veut.
Je te propose qu'on s'attache plus particulièrement maintenant aux images que tu as faites à Plan de Campagne, puis on regardera aussi celles qui ont été faites à Grand Littoral et puis un peu dans le coin. Alors la première... C'est 19, voilà.
Je photographie un parking où il y a une seule voiture dans un centre commercial qui paraît-il est un des plus grands d'Europe. Ça paraît quand même... ça peut être provocateur, quoi, je veux dire. Mais dans ces zones aussi, j'ai retrouvé beaucoup d'espaces qui sont vides de tensions et même voire de pertes. Et donc, cette image, elle tombe sous le sens. Je l'avais fait, je crois, c'était un samedi matin, mais c'était au mois de mai, juin, donc la lumière était correcte, très, très tôt. Donc, je serais venu peut-être 2 heures après, je n'aurais pas pu faire cette image-là.
Parce que le parking aurait été rempli.
Ah, aurait été rempli, oui, bien sûr.
Une histoire de solitude aussi, peut-être ?
Absolument, oui. Ça, je ne vais pas raconter ma vie.
Donc, deuxième image de Plan de Campagne. On pourrait croire que c'est l'église catholique, mais non, c'est un restaurant.
Ouais, cette image-là, j'ai failli me faire casser la gueule. Quand j'ai vu cette croix avec marqué restaurant, ça m'a tout de suite attiré le regard. Bon, je trouvais ça un peu... À un moment donné, j'ai pensé effectivement à la religion et la société de consommation... Et voilà, quoi. J'ai juste eu 30 secondes pour l'affaire et il y a le propriétaire de l'affaire du restaurant qui est arrivé, qui m'a menacé de me casser la figure, mes appareils. Il a appelé la police, que si l'image paraissait, je devrais lui payer des droits. Enfin bon, tout le bazar. Et effectivement, il a appelé la police et la police lui a expliqué que j'avais le droit de faire l'image, mais que si elle était publiée, que enfin, connaissait toute la loi. Et bon, il n'y a pas eu de suite et...
Donc la croix prend les trois quarts de l'image, quoi, et c'est un grand mât blanc sur lequel est barré horizontalement par les lettres rouges de restaurant.
Couleur du sang.
Sur la croix.
Après 29, on y est là ? Oui.
Oui. Ah oui, celle-là, effectivement, il faisait très froid. C'était au mois de février, je crois. Et quand j'ai fait cette image-là, j'avais l'impression de... Enfin, j'ai jamais été, mais de me retrouver dans un pays style ex-URSS ou Russie. Parce que j'ai l'impression que dans le reflet de la vitrine, bon, on voit un lit. Et derrière, on a l'impression que c'est une espèce de datcha, enfin les maisons russes. Donc, c'est vrai, on n'est pas censé savoir où on est, quoi. C'est... Mmh.
43. Un petit moment de nature.
Donc c'est le restaurant Buffalo à plan de campagne. Et donc j'avais un ciel, enfin une lumière un peu à l'américaine. Et devant, il y avait un terre-plein où l'herbe avait été rasée quelques jours auparavant. Et comme la lumière est forte ou la chaleur, je ne me souviens plus, c'est un peu cramé. Et donc ça me rappelait un peu les espaces américains. Et comme le propos, c'est de montrer que tout se ressemble et que ce sont des espaces quand même qui viennent plus ou moins des États-Unis. Je trouvais que cette image rentrait absolument dans l'histoire, quoi, enfin de ce travail.
Donc là, juste au-dessus de cette prairie de Far West, un peu cramée, donc ça dessine un horizon. On voit et là, on distingue juste les deux cornes du buffalo qui.
Juste en dessous, il y a l'autoroute qui passe. Mmh. Et donc, comme je me suis mis, je suis pas resté debout, je crois, je m'étais un peu accroupi. Donc du coup, ça change tout le paysage, enfin la représentation. Et du coup, on voit plus que ces deux cornes qui sortent du paysage. En plus, je pense que c'était à l'époque où il y avait les histoires de vaches folles et de trucs comme ça, et dont la chaîne de restauration Buffalo Gris avait été attaquée, je crois.
Donc toujours une image de plan de campagne, toujours, on est toujours en train de feuilleter The Statement avec André Merian. Et là, on a sur une dalle en béton, une sorte de... Enfin, c'est un grand chalet en construction ou en abandon, on ne sait pas trop.
Telle est la question. Non, c'était le chalet suisse. Je l'avais photographié auparavant en plan de campagne, il avait brûlé. Et je n'étais pas du tout content de l'image que j'avais faite. Je suis revenu quelques mois après. Et donc, j'ai trouvé la construction. Donc, on ne sait pas si... c'est un peu ce que je voulais dire. On ne sait pas s'il est en construction ou en déconstruction ou s'il va rester dans l'état. Parce qu'on a l'impression qu'il flotte. Voilà.
Lumière froide encore aussi.
Ouais, pourtant c'est fait au mois d'août.
C'est la septième image, la dernière que tu as faite à plan de campagne parmi les 51 de ce livre Statement. Des enfants qui jouent sur un parking.
Oui, donc ça c'est une image qui est faite effectivement sur un parking, et en arrière-plan il y a tout le complexe cinématographique de plan de campagne. Je voulais absolument faire une image là parce que j'avais l'impression que tous les affiches de cinéma accrochées, ça me faisait penser à un accrochage photographique dans un espace. Et il se trouve que je suis arrivé à ce moment-là où il y avait une famille qui devait attendre d'aller au cinéma, d'aller consommer, et qui jouait sur ce parking. C'est aussi peut-être des nouvelles aires de jeu, je ne sais pas.
Donc voilà, ça c'était pour plan de campagne. On va regarder maintenant les photos que tu as faites à Grand Littoral. Et d'ailleurs, avant le texte de François Bazzoli, la première photo de Statement d'André Merian, c'est Grand Littoral. Et c'est quoi ça? C'est le fameux cinéma UGC qui s'est écroulé?
Pour moi, c'est l'image de la destruction. Et je suis passé par là, par le train. Je passais en train. Je sais pas, je crois que je revenais de Port-de-Bouc faire des images. Et quand j'ai vu ça, je suis arrivé à la gare Saint-Charles et je suis reparti. J'ai pris un train de banlieue ou un bus, je sais même plus. Et je suis reparti tout de suite. Et j'ai eu juste pile poil la lumière pour faire l'image parce que j'avais tellement peur que ce soit tellement vite détruit que je puisse pas faire cette image. Et j'ai voulu la mettre justement en premier dans le livre par rapport au titre, par rapport à plein de choses. Donc c'est quand même une image forte et un livre en général, il faut commencer par une image forte. Et donc je pense qu'elle est bien placée. C'est un ami allemand qui m'a donné le cheminement par rapport à ça.
C'est une image de ruine, quoi.
Ouais, de ruines, de guerre, je sais pas.
Il y a des espaces verts devant.
Et des petits sapins minimalistes, tout est bien ordonné, tout est bien rangé, tout est bien propre. Et puis en haut, il y a ce chaos, quoi.
La seconde photo que tu as fait de Grand Littoral, elle est page 57.
Ah oui, c'est le chien. 57, tu m'as dit.
Ouais. Ah, c'est celle-là. Ouais. Ah, bah oui, c'est Grand Littoral, ça. Il y a 71.
Ouais.
Alors.
Je suppose que quand ils ont construit le Grand Littoral, je crois qu'ils devaient faire un espace aquatique ou une grande piscine ou je ne sais trop quoi. Et donc, cet espace, il est resté à l'état de chantier. Et donc, c'est barricadé de grillage. Je trouvais que ça faisait camp militaire, quoi.
Donc ça prend la moitié de l'image à peu près, un peu moins. C'est un grand espace vide clôturé avec en rouge sur blanc écrit Aignade et accès interdit.
Baignade.
Oui, mais le B.
J'ai remarqué. Baignade interdite et.
Et accès interdit.
Ouais. Et du coup, il y a des gens dedans avec un chien.
Place autour.
Ouais. Et le chien, j'aurais pas voulu qu'il me court après. Mmh. Mais il paraît que dans ces espaces-là, il y a des gens qui viennent chercher des petits oiseaux. Des espèces de serins. Enfin, je m'y connais pas trop en oiseaux. Et il m'avait parlé de ça. Parce que c'était autour. Hein. Donc, je suis arrivé là. C'était comme ça, quoi.
Et qu'est-ce qui t'a séduit dans cette image
hein? C'est le côté le vide, le côté enfermement aussi, le grillage. Mmh. Le chien qui passe, c'est pas un petit épagneul. Hein, je sais pas ce que c'est comme race de chien, mais c'est pas... Mmh. Puis les deux personnages qui suivent derrière, éloignés, perdus dans l'espace. Quoi.
Ouais. Alors toujours des espaces tendus. Et c'est vrai que les deux figures humaines qu'on voit qui ont pénétré à l'intérieur de la clôture... En fait, ils ont le même statut que la signalétique urbaine, que des éléments urbains, quoi.
Je voulais que les personnages, en général, soient éloignés, quoi, pour bien voir la proportion qu'ils peuvent occuper, enfin, je sais pas si ça se dit, dans ces espaces-là, par rapport au lieu, par rapport au lieu, à l'espace. Et on a l'impression qu'ils sont vraiment perdus, quoi.
On va aller du côté de Vitrolles, maintenant. Ouais, Vitrolles, zone commerciale de Vitrolles. Tu en as fait deux.
Ah ouais.
Ça y est, il se souvient.
Je voulais tirer au flanc. Ouais, c'est un parking vide à côté de Vitrolles. Et donc, il y a cette architecture, il y a cette touche de rouge qu'on retrouve sur beaucoup d'images dans le parcours du livre.
Mmh.
Et c'est une image toute simple. B.
Alors, 39. C'est la seconde à Vitrolles. Mais je crois d'ailleurs que c'est un peu...
Ouais, ça c'est en périphérie aussi de la zone commerciale de Vitrolles. Donc c'est deux barres rouges. Je suppose qu'avant, il devait y avoir un écriteau en transversal pour une pub ou quelque chose. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était des... Pour moi, c'est une espèce de sculpture. Ou peut-être, j'avais l'impression que c'était des buts de rugby ou je ne sais trop quoi.
Et ce qui est amusant, c'est que c'est quand même une photo qui fait largement penser au Buffalo de tout à l'heure. On a la prairie jaune, la ligne d'horizon avec le ciel, et on a deux cornes.
Ah oui, c'est une approche. Hein. Oui, absolument. Oui. Et en plus, c'est en plein été. Alors...
On quitte Vitrolles pour aller pas loin, à Fosse. Snack.
Ouais, Snack, ça c'est Fosse-sur-Mer. Ah, moi, c'est un endroit qui est magique pour moi. Quand j'ai vu cette image, c'est pratiquement dans l'accro. Et donc, c'est vrai que c'est Snack, ça claque. Snack, c'est... En fait, il devait y avoir une guinguette, là, à une époque, et il ne reste plus que cette trace de cette barre blanche sur le sol avait marqué Snack. Et au premier plan, on voit aussi des résidus de poubelles de consommation. Quoi.
Donc c'est une enseigne de snack au milieu de nulle part.
Ah oui, ouais, absolument. Ouais, ouais. Mais on est toujours dans les zones, ouais, c'est périphérique, c'est périurbain. Hein. C'est pas en pleine campagne. Hein.
Alors promenons-nous toujours dans le coin, Port de Bouc. Ah ouais. On se la prend en pleine figure, celle-là.
Ah ouais, ça, c'est un parking à Port de Bouc. Voilà, tout simplement. Bon, le cadrage, c'est vrai, il est un peu plus serré que sur les autres, malgré que quand même, il y a toujours une distance. Et donc, il y avait cette barre rouge au milieu. Et...
Il y a une petite bande de ciel bleu tout en haut, ouais, de l'image, une, ouais, grosse barre ocre qui barre, ouais, toute l'image, pas d'horizon, ouais, une façade ocre de je sais pas quoi. Et après, et juste devant des blocs de béton comme on voit au bord des routes avec un peu de gravier.
Ouais, en fait, c'est une image qui est faite, on dirait, en strass, quoi.
En strat,
ouais. Ouais, des parties bien, bien définies, bien... Ouais, et donc, ça, je redis, l'élément rouge, ouais, ça rappelle ce qu'il y a dans les autres images aussi pour, ouais, la circulation des images.
Là, donc, on est à Port de Bouc, c'est 81, et on va finir par Marseille, la zone portuaire... Ouais. Donc là, c'est plus zone commerciale.
Non, c'est ouais, c'est vrai, c'est zone portuaire, mais je voulais une image quand même sur.
C'est l'arrivée des marchandises, peut-être.
Aussi. Ouais, ou à côté de Marseille, je voulais quand même. Et donc c'est ce rond, ce rond qui m'a. C'est pour ça que j'ai fait l'image. J'aime bien les ronds. Je trouve que c'est assez dur à le faire en photographie, mais j'adore les ronds. Et donc j'ai fait ça.
Donc c'est un rond qui a été, enfin c'est un rond-point, ouais, en gros, qui a été fait, qui a été fait par, qui a été formé par des bornes en béton mises, ouais, ouais, les unes à côté des autres. Et en fait, on se rend compte que tout tourne autour du vide, quoi, parce qu'au milieu du rond-point, il n'y a rien.
Ouais, ouais, exactement. Tout est vide. Mais je ne sais pas s'il existe toujours. Parce que si c'était un projet, je ne sais pas du tout. Faudrait que je retourne voir. Mmh. Et puis en plus, toujours pareil, les petits personnages de loin, quoi, éloignés, qui passent par là. C'était une image un peu où on sent... Oh non, c'est pas la peine de dire ça, je vais dire des conneries.
Si, bah, vas-y, c'est non, subjectif. Hein.
Non, non, c'est un peu la mer.
Mmh. Pareil, lumière froide. Hein.
Ouais. Mmh.
C'est vraiment la lumière froide, c'est quelque chose qui traverse beaucoup d'images. Hein.
Ouais, ouais. Puis bon, il y a aussi, moi je tire mes images très doux, très le moins de contraste possible. Donc c'est vrai que ça, je trouve que ça rend plus froid, quoi. Mais bon, j'aime bien la lumière froide.
Bon, on a fini la promenade. Là, qu'est-ce qui te reste, toi, comme moment marquant de tout ce travail?
C'est d'avoir pu aller à New York, prendre l'avion pour y faire des images, parce que j'ai vu la bourse de la DRAC, mmh, et là ça a été vraiment le summum pour moi.
Alors il faut qu'on dise deux mots des images de New York, non, je sais pas. Tu veux, on en prend une, tu nous dis. Ben, je sais pas, alors New York c'est où, là j'ai pas repéré. Tu la trouverais?
Bon, non, je sais pas. Tiens, celle-là.
Celle-là, alors.
Bon, les États-Unis, le grand symbole quand même de la consommation, c'est le Coca-Cola. Enfin, c'est pas qu'aux États-Unis, c'est dans le monde entier, quoi. Et donc, je voulais absolument faire une image avec Coca-Cola. Bon, ça a été fait et refait. Et je suis arrivé sur un parking, ça c'était à Staten Island, si je me souviens bien. Et il y avait un enchevêtrement de packs de Coca-Cola, enfin, pour... de petits casiers pour mettre les bouteilles pour les livraisons, quoi. Et ils étaient carrément stockés à côté des poubelles qu'on voit. Et donc je me suis dit, j'ai tout déplacé et j'ai tout installé comme ça, et donc j'ai mon image avec Coca-Cola discrète, mais j'aime bien.
Et tu travailles sur quoi aujourd'hui?
Je travaille sur la pré-campagne. C'est-à-dire la campagne, non, pas la campagne, mais des zones qui sont situées à côté de la périphérie et entre la campagne. Et c'est encore plus compliqué à travailler.
C'est comme il y a le périurbain, il y a le périrural, c'est ça?
Peut-être, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais je ne veux pas trop en parler maintenant parce que ce n'est pas fini. Non, tu m'auras pas.
Bon, c'est dans le coin aussi.
Ouais, c'est en France, oui. Oui. Enfin, je pense pas que je fasse un long périple comme ça. Non, c'est en France.
Merci. C'était André Merian, photographe. Son livre Statement, édité par Images en Manœuvre, se trouve dans toutes les bonnes librairies ou en commande directe sur le site internet de l'éditeur. Une pause musicale et l'on continue cette semaine commerciale sur les 3-8 avec une playlist musicale commentée, signée Jean-Philippe Diaz et Christophe Robert de Musique Galerie, une société de programmation musicale pour centres commerciaux.
Une fumée cramoisie grimpe la tour de ma cité. Ils ont flambé les débris d'une carcasse déglinguée. Quand je traverse la voie ferrée pour retrouver les fêlés, c'est déjà l'heure de grailler. Fonçons sur le supermarché. Béni soit notre ripaille, le bon Dieu nous a fait canaille. Profitons, vidons les rayons du temple de consommation. Béni soit notre ripaille, le bon Dieu. Un chariot sonne la charge des frigos. Et son beau-frère Santiago a pris une tranche de gigot. Moi je taquine le goulot de notre litre de Bordeaux. Pendant que le petit Momo se lave, régale des gâteaux. Béni soit notre ripaille, le bon Dieu nous a fait canaille. Profitons, vidons les rayons du temple de consommation. Béni soit notre ripaille. À ceux qui affament la racaille pour faire encore plus de pognon. Béni soit notre ripaille, le bon Dieu nous a fait canaille. Profitons, vidons les rayons du temple de consommation. Béni soit notre ripaille, le bon Dieu nous a fait canaille. Profitons, vidons les rayons du temple de consommation. Béni soit notre ripaille.
C'est tout vu, hein?